Lorsqu'une famille commence une thérapie familiale parce qu'elle constate des dysfonctionnements dans sa manière d'être et de se relationner les uns avec les autres, le thérapeute est tout d'abord attentif au rôle et à la place de chacun dans la famille. Comment je me situe par rapport aux parents, comment les époux se situent l'un envers l'autre, comment les enfants aussi trouvent leur place. Et on voit bien que cette question de place qui traverse l'Évangile, mais traverse aussi notre vie, nous renvoie aussi à la question de notre identité. Notre place, notre rôle dans la famille, mais au-delà de la famille, c'est aussi notre identité, qui nous sommes. Et on voit bien dans ce passage qui nous est donné ce besoin de reconnaissance que cet invité qui occupe la première place, ce besoin de reconnaissance, ce besoin de gratification, ce besoin d'approbation qui aussi traverse nos vies. Et ça vient en grande partie parce que je ne sais pas forcément qui je suis, je ne sais pas bien mettre une distance et une frontière par rapport aux autres. Et du coup, je me répands et du coup, j'occupe une place, un rôle qui n'est pas le mien. Et c'est vrai que le fait de travailler sur cette question de la place de chacun renvoie au fond à la question de l'humilité. L'humilité, on a parfois une vision plutôt négative, ça consisterait à dire « excusez-moi de vous demander pardon » et de s'abaisser de façon tout à fait excessive et de renier même qui l'on est. J'aime bien cette phrase de Sainte Thérèse d'Avila qui dit « l'humilité, c'est la vérité ». La vérité, c'est d'abord que nous existons comme personne. L'humilité, c'est accepter de dire « je ». Et accepter de dire « je », c'est accepter de dire « non ». Et accepter de dire « non », c'est se positionner les uns par rapport aux autres. Et je crois qu'en grande partie, ce désir d'approbation, d'être valorisé, vient d'un manque de conscience de qui nous sommes, un manque de prise de conscience, de connaissance, à la fois de nos limites, mais aussi de nos capacités, mais aussi des grâces que l'on a reçues. N'ayons pas une vision négative de l'humilité, mais au contraire, demandons au Seigneur qu'il nous permette de voir tout ce qui est beau en nous. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Oui, la Vierge Marie est celle qui nous donne l'exemple de l'humilité. Elle dit « toutes les générations me diront bienheureuse ». Je dis « mais est-ce que ce n'est pas un manque d'humilité que dire ça ?» Et non, elle reconnaît l'œuvre de Dieu en elle, elle sait quelle est sa vocation, elle sait quelle est son identité, elle sait quelle est sa place et son rôle dans le mystère du salut, elle le découvre progressivement, et parce qu'elle le découvre, du coup elle peut dire ça. Donc nous-mêmes, nous avons à peut-être revisiter la manière dont nous voyons l'humilité, qui n'est pas forcément une bonne manière, c'est-à-dire surtout dans un monde, le monde catholique, où c'est plutôt vu comme une parfois dépréciation de nous-mêmes. Non, le manque de confiance en soi, le manque de sécurité peut engendrer justement ce besoin excessif de reconnaissance et de se mettre à la place qui n'est pas la nôtre. Ça veut dire que l'humilité demande un discernement. Demande un discernement. Quelle est ma place? Qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que si j'ai vu quelque chose, est-ce que c'est à moi de le dire? Est-ce que je suis conscient de telle ou telle situation? Est-ce que c'est à moi d'intervenir? Il y a un vrai besoin de discernement, et c'est parce qu'on se met dans une attitude de discernement qu'on est à l'écoute de la parole du Seigneur et qu'on se dit ben, « quelle est ma place? Quel est mon rôle ?» Et c'est parce qu'on a une grande confiance dans les grâces que l'on a reçues et confiance en soi qui n'est pas un ego surdimensionné. Là aussi, il y a trouvé une juste mesure hein, entre une dépréciation de soi-même et un ego surdimensionné. Il y a la place pour une légitime confiance en soi et appréciation de soi-même. C'est parce que je suis en sécurité, parce que je sais qui je sais, je suis par rapport aux autres, par rapport à Dieu, parce que j'ai pris conscience des grâces qui m'habitaient, que je peux rentrer aussi dans la deuxième invitation que nous lance le Christ. Lorsque vous faites un repas, eh bien, invitez les pauvres, les estropiés, ceux qui ne pourront pas vous rendre, ceux qui ne pourront pas vous gratifier, ceux qui ne pourront pas vous, peut-être vous envoyer une reconnaissance à la manière du monde. Vous rentrez dans un amour qu'on appelle d'agapé, c'est-à-dire un amour qui donne sans attendre de retour, l'amour de Dieu. Mais alors, c'est pour nous l'invitation, frères et sœurs bien-aimés, à nous mettre dans cette attitude, au fond, de confiance, de réflexion, d'être attentif lorsque nous-mêmes nous avons à intervenir, à discerner, à être dans une vraie demande de juste place. Et peut-être les manques d'humilité, c'est peut-être la place qu'on aurait dû prendre et que l'on n'a pas prise. C'est ce qu'on appelle la pusillanimité. La pusillanimité, c'est ce fait qui s'oppose à la magnanimité. La pusillanimité, le pusillanime, c'est celui qui dit « Ah non, surtout pas moi, il faut qu'on m'oublie, je ne suis pas capable, etc. » Alors que la personne a les capacités. C'est celui que « Voilà, je veux rester dans mon petit coin, alors... » Non, voilà, ça c'est le pusillanime. Mais c'est une forme d'orgueil. C'est une forme d'orgueil. C'est une fausse humilité. Et saint Thomas d'Aquin dira que « À quoi on reconnaît l'humilité ? À la magnanimité, à la grandeur d'âme. Avoir une âme grande, c'est-à-dire ne pas regarder à la dépense, aller peut-être par amour prendre une place que nous a demandé de prendre, sachant que ça va être difficile, sachant que l'on va être exposé, sachant que nous allons peut-être être soumis à la critique, et on le sait, dès qu'on entreprend quelque chose, dès qu'on a une responsabilité, forcément on est critiqué. Mais là on voit l'humble. L'humble n'écoute pas la critique, l'humble regarde le bien faire, l'amour du bien qui le motive, cette grandeur d'âme qui le pousse à assumer des responsabilités et à accueillir avec humilité les incompréhensions, sans vouloir plaire, sans vouloir, sans rechercher cette approbation de façon maladive. On voit des personnes qui ont tellement besoin d'être, parce qu'insécures, parce que manque de confiance en elles, tellement besoin d'être approuvées, etc., qu'elles se mettent dans des situations impossibles. Alors oui, nous sommes invités au fond au courage. L'humilité, l'autre manière de dire humilité, c'est dire courage. Le courage de choisir le bien, le beau, le vrai. C'est un vrai courage aujourd'hui. Et parce que l'on se fasse s'exposer forcément à la contrariété, nous comme chrétiens, nous avons une certaine manière de concevoir le beau, le bien, le vrai, qui n'est pas à la manière du monde. Et le Seigneur nous dit, est-ce que tu acceptes, là où tu es, d'être ce témoin de la beauté, de la bonté et de la vérité ? Quitte à te faire traiter d'excessif ou de rétrograde, ceci, est-ce que tu acceptes d'être mon témoin ? Et on le sait bien, témoin, c'est aussi martyr, c'est la même racine. Est-ce que tu acceptes d'aller jusqu'au don, peut-être le plus ultime, mais sans parler de don ultime et le don de la vie, il a le fait de peut-être perdre dans le regard des autres une certaine estime parce qu'on prend des positions claires par rapport à l'évangile, par rapport à la société, et donc on sait qu'on peut perdre l'appréciation, l'estime, ou voir des amitiés, des personnes qui se détournent. Est-ce que j'accepte avec courage de rentrer dans ce témoignage ? Dans ce témoignage qui m'emmène justement à être à contre-courant, parfois. Et on le voit bien, on voit bien l'exemple de notre pape François avec la question des migrants, etc., combien il est à contre-courant, malgré l'appel qu'il a lancé, que toute paroisse accueille, etc. On ne peut pas dire que ça se presse au portillon. Il continue d'appeler, il continue de se faire critiquer, il continue... Voilà, je trouve que c'est un bel exemple d'humilité, justement, un bel exemple de à la fois voir le bien et ne pas tenir compte du regard parfois négatif, et voir des personnes qui n'ont de cesse de vous mettre à terre. Et je trouve que c'est un bel exemple, pape François, de ce point de vue-là, parce qu'il choisit une position courageuse, pas facile, courageuse, prophétique, pas forcément comprise. Je veux dire simplement, par les catholiques pratiquants, par le clergé, par la curie, pas forcément comprise, mais justement, c'est la grandeur d'âme, c'est la magnanimité qui l'habite, c'est un acte d'humilité. Et là, on voit un exemple, justement, très clair d'humilité. Alors, nous-mêmes, on peut se questionner dans les invitations que l'on nous lance à prendre des responsabilités, à prendre notre place, tout simplement, dans la famille. Est-ce que j'accepte, parfois, de, si on me, je vois que j'ai une place où, de médiateur, de mettre en relation la famille. Il y a des personnes comme ça qui ont des charismes. Ils mettent en relation les gens, ils arrivent à faire le lien. Mais ces personnes-là qui sont charnières sont aussi des personnes qui s'exposent à la critique et qui s'exposent au fond à être désapprouvées. Mais est-ce que je vais cesser, parce que je suis désapprouvé, de faire le bien sous prétexte que j'ai un tel besoin de reconnaissance? Alors le Seigneur nous demande aujourd'hui, à travers cette parabole, avec cet invité aux noces, ces noces, hein, ces noces de l'agneau, eh bien, de dire, d'occuper rien que notre place, mais toute notre place. Ne soyons pas avares de dons. N'ayons pas le syndrome de l'avare. Le syndrome de l'avare, c'est, au fond, il vit pauvrement parce qu'il il accumule un pouvoir d'achat, mais jamais il ne dépense. C'est ça l'avare. Et on voit des personnes très avares, très riches, mais peut-être avec des vêtements rapiécés ou une manière de vivre très modeste, justement parce qu'il ne veut surtout pas perdre son pouvoir de dépense, son pouvoir d'achat. Eh bien, ce syndrome de l'avare est une manière de l'orgueil, très certainement, parce que l'orgueil nous empêche de rentrer dans une logique de don. Et justement, si on a ce syndrome-là, où on veut accumuler, où on veut se protéger, où on veut comme édifier toute une forteresse autour de soi pour devenir inatteignable, c'est une manière d'orgueil. C'est une manière d'orgueil, très certainement. C'est une manière de toute puissance. Et ça nous traverse, forcément. La toute-puissance nous traverse. De devenir inaccessible, inatteignable. Alors oui, je trouve cet évangile vraiment tellement éclairant, justement, dans notre vie chrétienne, dans notre vie familiale. On va demander au Seigneur qu'il nous aide, justement, à nous mettre à son écoute. Parce qu'au fond, l'humilité, c'est d'abord être à l'écoute de ce que le Seigneur nous dit. Et c'est dans la prière, dans la lecture de la parole, dans les sacrements, que l'on prend conscience de où est notre place. C'est là où c'est l'affirmation d'une transcendance qui nous permet de découvrir où nous allons porter du fruit et un fruit qui demeure. C'est l'affirmation d'une transcendance qui va nous dire la terre féconde où nous pourrons vraiment vivre et développer nos charismes et nos talents. Alors on va demander au Seigneur cette grâce-là d'être à son écoute. Et c'est vrai qu'un manque d'écoute de la parole de Dieu, un manque de vie spirituelle, une pauvreté spirituelle, une paresse spirituelle, fait que l'on ne sait plus vraiment où on a notre place. On ne sait plus vraiment là où on peut porter du fruit, et du coup on se répand, on va de ci de là en quête de reconnaissance, en quête d'une approbation du monde. Mais non, ce n'est pas ça qu'on recherche. Ça veut dire aussi, comme chrétien, accepter de vivre une certaine solitude. Accepter de vivre une solitude. Parce qu'on n'est pas, on voit pas les choses de la même manière que la majorité des gens. Ce que peuvent déverser les médias, etc. On n'a pas forcément, sur nombre de points, la même manière de voir. Du coup, on traverse la solitude. Mais parce qu'on traverse la solitude, on sait aussi là où je peux porter du fruit. Je sais aussi là où je dois aller et là où je ne dois pas aller. Parce que je suis passé par ce creuset de la solitude qui m'a permis de me recentrer sur l'essentiel, de descendre à l'intérieur, d'avoir une vraie vie d'intimité avec le Seigneur. Alors on va demander au Seigneur qu'il nous aide, parce que c'est un combat, l'humilité, la place que nous avons, la place de Dieu dans notre vie, nous par rapport au Seigneur. On voit bien que ça n'a rien de spontané, ça strictement rien de spontané, c'est quelque chose qui se travaille, qui se revisite, et dans l'accompagnement spirituel, comme dans la confession, c'est bien de se poser la question, où est-ce que j'en suis par rapport à ces choses-là, parce que l'âme humaine ne reste pas égale toute la vie, il y a des périodes dans la vie humaine, il y a des périodes de vie, il y a des tranches de vie, et du coup la manière de découvrir là où on peut porter du fruit, c'est-à-dire ma juste place, eh bien change forcément, et donc on a besoin d'être éclairé, et c'est tout le rôle de l'accompagnement spirituel, de se mettre à l'écoute d'un aîné dans la foi qui va m'aider à réfléchir, c'est pas lui qui prend la décision, mais qui va m'éclairer, qui va me éclairer ma conscience, hein, c'est surtout ça l'Église à cette vocation, et le Seigneur vient éclairer les consciences pour me dire, ben, aujourd'hui, où est-ce que tu peux, à ta juste place, porter du fruit et vraiment être fécond. Alors, on se tourne à nouveau vers la Vierge Marie, parce qu'elle a eu à trouver, on imagine, comme la mère de Jésus a ce rôle particulier, avait été aux noces de Cana, elle a eu, quelle était sa place, quelle était... On imagine comme personne humaine, hein. Jésus est personne divine, mais Marie, personne humaine, j'imagine bien qu'elle a eu cette grâce par le Saint-Esprit qui l'a couvert de son ombre, voilà, cette grâce de chercher toujours et d'aider l'Église naissante à découvrir, d'aider les apôtres, hein, réunis au Cénacle, d'aider à découvrir comment est-ce qu'ils allaient pouvoir témoigner, comment ils allaient pouvoir être disciples de Jésus dans la période de vie, dans la période d'histoire qu'il traversait. Demandons à la Vierge Marie qu'elle nous aide à être ses témoins de celui qui nous appelle des ténèbres, à son admirable lumière. Amen.